L'info du jour avec aujourd'hui Mathieu Eaton, aérostier bien connu sur Courchevel, tant il est vrai que vous avez, Mathieu Eaton, le plus gros véhicule de la station. Difficile en effet de louper votre montgolfière dans le ciel de Courchevel, car depuis des années, vous animez la partie aérienne de notre station. Quand est-ce que vous êtes arrivé à cette spécialité de la montgolfière? Parce que je crois que vous avez à peu près tout essayé en matière de vol.
Oh, quasiment tout essayé, puisque j'ai commencé par l'avion, puisque maman était pilote instructeur pendant 30 ans à Courchevel. Et ensuite, le parapente en biplace. J'ai arrêté, trop occupé justement, par rapport à l'activité de vol en montgolfière. Et donc, ça fait 22 ans maintenant à Courchevel que je pratique cette activité, au départ de l'altiport de Courchevel.
Vous avez combien de ballons aujourd'hui?
J'en ai deux.
Ouais.
J'en ai deux et j'ai mon deuxième pilote, donc Armand, qui travaille ici à la patinoire.
Mathieu Eaton, dans la catégorie des engins qui volent, vous avez très clairement le plus lent.
Lent, en fait.
Ça dépend du vent, vous allez
voilà,
me dire.
Voilà, tout à fait.
Alors
voilà,
justement, quelle peut être la vitesse d'une montgolfière?
Elle est à la vitesse du vent.
J'imagine que, bien entendu, s'il y a grand vent, s'il y a tempête, vous ne volez pas, bien entendu. Donc, quelles sont les vitesses, alors on va dire maximales, que vous vous autorisiez quand vous ne vous faites pas avoir par le vent, évidemment?
Alors, on vole en montagne déjà. Donc, nous, on décolle à 2000 mètres d'altitude. Donc, la difficulté, s'il y a du vent, à cette altitude, c'est déjà de gonfler le ballon, le mettre debout avant de pouvoir partir.
Alors, on rappelle déjà, évidemment, le principe de base d'une montgolfière. Il faut remplir le ballon d'air chaud pour prendre de l'altitude. C'est ça, le principe?
On le ventile, d'abord, avec un ventilateur. Ensuite, on le chauffe. Il faut une soixantaine de degrés de différence à l'intérieur du ballon pour que ça nous permette de voler.
Combien de ballons est-ce qu'il existe en termes de volume? On va dire dans les grandes lignes, parce que après il y a des ballons un peu atypiques, mais on va dire ceux qui sont les plus employés. En général, ils ont quel volume?
On a le 3000 m3 où on a 2-3 personnes à bord, mais on a des petits ballons de 77-80 m3 où on vole tout seul, voire celui qui a le siège avec la bouteille dans le dos, où il n'y a même pas une nacelle autour. Et on va jusqu'à du 15 000 m3 où on a 32 passagers.
Alors vous voulez avec quel volume?
Nous, on est dans les petits gros, 4500 m3. Le volume du ballon, ce sera le nombre de passagers qu'on peut prendre et la taille de la nacelle. On a ce volume-là qui nous permet d'être manuellement possible ici en montagne, sachant qu'on peut se poser à droite ou à gauche où il faut porter le matériel des fois. Donc au-delà de ces tailles-là, on n'y arrive plus.
Alors j'ai une question bête, Mathieu Eaton, mais qu'est-ce qu'il se passe le jour où nous avons les fameuses températures inversées, c'est-à-dire qu'il fait plus chaud en altitude que dans la vallée? Est-ce que ça vous gêne?
C'est pas que ça me gêne. Le vol en montagne, tout simplement, on bénéficie ou on subit, on l'interprète comme on veut, des brises de pente et de l'aérologie du jour. Donc on peut avoir dans un sens ou dans un autre, je dirais, du mouvement. Si on a des inversions de température, et ben ma foi, ce sera peut-être pas trop comme d'habitude, mais on aura un mouvement qui sera dans l'autre sens et on l'utilise aussi. On utilise tous ces mouvements pour se mouvoir, quoi. C'est-à-dire qu'on a beau aller que dans la direction du vent, on choisit malgré tout une altitude qui nous sied. Si on veut pas aller quelque part, on peut toujours se poser aussi.
Mathieu Eaton, si je vous ai demandé de venir en cette journée, c'est parce que régulièrement, vous faites des touch and go près de la station et même parfois, vous vous posez sur les routes. D'ailleurs, le Dauphiné Libéré relate un de vos atterrissages après qu'un internaute ait posté une vidéo qui vous montre dans un de ses atterrissages sur une des rues de la station. Alors tout le monde s'est donc demandé si c'était un accident, voir s'il y avait des blessés. Je crois même que vous avez été appelé par la gendarmerie du département. Donnez-nous de nouveau sur cette antenne des explications, quel est le principe d'atterrissage d'une montgolfière?
Alors, déjà, on peut appeler ça un incident de vol à chaque atterrissage, puisqu'on ne retourne pas au point de décollage.
Oui.
Donc on peut le classer comme ceci. Ceci dit, on vole ici l'hiver. L'hiver, il y a un truc qu'on appelle la neige, qui bloque les accès, principalement partout. On se retrouve avec une seule route ici sur notre vallée.
Donc, quand vous parlez de l'accès, vous parlez évidemment de l'accès pour venir vous récupérer, bien entendu, puisque vous pourriez vous poser un peu n'importe où, mais par contre, on ne pourrait pas venir vous chercher.
Exact. J'ai eu 500 kilos de matériel. S'il est au plus près de la remorque, c'est le mieux. Voilà, donc j'essaye toujours de me rapprocher d'un axe routier. Évidemment, je vais faire en sorte de ne pas gêner la circulation. Évidemment, je ne vais pas choisir de me poser en plein sur la départementale, à moins vraiment de cas force majeure, mais jusqu'à présent, ça ne s'est pas présenté. Donc on essaye toujours d'être en marge, en tout cas du trafic.
Et donc la route n'est pas un lieu privilégié, mais en tout cas, il peut être un lieu d'atterrissage.
Je vais l'éviter, évidemment. Mmh. Mais on essaie toujours de se poser à proximité, puisque mon véhicule vient nous récupérer.
Parlez-nous de l'ordre des priorités, parce que vous êtes, je crois, en tout cas prioritaire en matière d'atterrissage, n'est-ce pas ?
Au sol, je ne suis pas plus prioritaire qu'un tracteur ou un troupeau de vaches.
Oui.
Mais bon, je pense que les automobilistes vont faire attention à moi au même titre. Donc, ceci dit, au niveau vol, oui, je suis prioritaire par rapport à n'importe quel aéronef. Ceci dit, la même chose ici sur l'altiport de Courchevel, je n'en abuse pas, parce qu'il n'y a pas lieu, de toute façon, d'en abuser. Donc, je ne respecte pas les circuits en les prenant, mais je respecte les circuits en ne stagnant pas en plein milieu.
Ouais. D'ailleurs, très clairement, il n'y a pas des centaines de zones d'atterrissage possibles sur un lieu comme Courchevel.
Eh ben, s'il y a du vent, de toute façon, le problème ne se pose pas puisque je vais changer de vallée. Là, c'est facile. Par contre, le vent me menait direction le parc de la Vanoise. J'ai tout fait pour rester en local. Mmh. Donc, de ce fait, il faut que je travaille un petit peu l'aérologie pour me présenter sur un terrain qui se présente bien. Et là, sur la route, ça s'est très bien présenté. D'autant plus qu'il y avait plein de gens que je connais qui ont pu m'aider. Donc, il y avait 5 ou 6 personnes.
Oui, parce qu'en général, les voitures vous voient arriver, puis vous ne descendez jamais très vite. Donc, on a le temps de s'arrêter.
J'ai quand même eu le temps, là, comme j'allais très très doucement, j'ai quand même eu le temps de demander aux collègues qui étaient au sol de me ralentir les voitures au cas où, et tout s'est très bien passé.
Bon. Mathieu Eaton, je rappelle que vous êtes aérostier, c'est vous qu'on voit en général hein, passer au-dessus de nos têtes, passer tout près, même parfois des bâtiments. Merci d'être venu nous donner toutes ces explications cette journée.
C'est un plaisir,
bon vol. J'en reviendrai. Bon vol.